France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Si je vous dis 2 Oscars, 3 Césars, 2 BAFTA, 2 Grammy, 2 Golden Globes, vous me direz que cela fait trop pour un seul homme, déjà. Le compositeur de musique de film Alexandre Desplat sera mon invité dans la deuxième partie des midis à 13h. Mais tout de suite, place à la critique. Au menu aujourd'hui de la littérature étrangère avec La Cité aux Murs Incertains, c'est le nouveau roman d'Haruki Murakami, et la publication en France 55 ans après sa première parution du roman de l'américaine Susan Tobes, Vie et mort de Sophie Blind. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Midis de Culture et bienvenue à nos critiques. Marie Sorbier, productrice du Point Culture tous les jours, ici même dans cette émission.
Bonjour Marie.
Pierre Benetti, co-directeur éditorial de la revue en ligne En attendant Nado.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Dans la postface de son nouveau roman, Haruki Murakami cite Borges qui pensait qu'un écrivain ne peut écrire qu'un nombre limité d'histoires dans sa carrière. De fait, dans La Cité aux Murs Incertains, c'est le titre de ce livre, l'auteur japonais le plus lu en France reprend le motif d'une de ses anciennes nouvelles, écrite en 1980 alors qu'il tenait un club de jazz à Tokyo. Un texte jamais publié, qui depuis l'a suivi comme une ombre, jusqu'à ce qu'il en fasse ce roman que nous avons là. Et les ombres y sont nombreuses, ça commence comme ça. 2 adolescents amoureux imaginent une cité magique. La jeune fille disparaît et le garçon éperdu va la chercher tout au long de sa vie, quitte à passer de l'autre côté du miroir. Il croisera des fantômes, des licornes, sera liseur de rêves, directeur de bibliothèque. Avez-vous été sensible à l'univers de ce roman? On commence par un avis rapide avec vous, Pierre Benetti.
Oui, de manière très rapide. Oui, j'ai été très sensible. J'ai retrouvé mon souvenir de Kafka sur le rivage. Je me suis rendu compte d'ailleurs que ça faisait déjà une quinzaine d'années. Et c'est très enveloppant comme roman. Ça marche très fort dès le début. On est saisi par un univers poétique où on reconnaît, si on a un petit peu lu Murakami, et c'est le cas puisque à travers le monde, il est quand même l'auteur le japonais le plus lu. Donc oui, j'étais sensible. Après, il faut justement être absolument disponible et disposé à entrer dans la fiction, à accepter que tout ne marche pas comme dans le monde ordinaire, et aussi à accepter certaines longueurs du récit. On va peut-être en parler.
Marie Sorbier.
Oui, alors moi, j'aime bien une expression qu'utilisent les Suisses, alors je vais me permettre de la reprendre aujourd'hui. J'ai été déçue en bien. C'est-à-dire qu'on retrouve en effet toute la grammaire de Murakami dans ce livre, mais alors sans aucune surprise, mais sans aucun déplaisir non plus. J'étais dans cet entre-deux-là pendant les presque 600 pages. Donc je l'ai lu avec, je dirais, dans un ennui confortable et agréable en même temps.
Alors on va écouter la langue de Haruki Murakami, traduite par Hélène Morita.
C'est toi qui m'as parlé de la cité. Ce soir d'été, respirant les effluves de l'herbe tendre, nous avons marché vers l'amont de la rivière. Nous avons traversé une succession de gradins formant de petites cascades et nous nous sommes arrêtés de temps en temps pour observer des poissons argentés, filiformes, qui nageaient dans les nappes d'eau. Nous étions tous deux pieds nus depuis un bon moment. L'eau claire lavait et rafraîchissait nos chevilles. Le sable fin de la rivière nous enveloppait les pieds, comme un nuage doux dans un rêve. J'avais 17 ans, toi, 1 an de moins. Tu avais fourré négligemment tes sandales rouges à petits talons dans ton sac en faux cuir jaune, et tu continuais de marcher, à quelques pas devant moi, sautillant d'un banc de sable à un autre. Des brins d'herbe humide restaient collés à tes mollets mouillés, dessinant une jolie ponctuation verte sur ta peau. Moi, je tenais à deux mains mes vieilles baskets blanches. Tu t'étais assise dans l'herbe d'été, sans doute fatiguée d'avoir tant marché. Puis tu avais regardé le ciel sans rien dire. Deux petits oiseaux, l'un à côté de l'autre, avaient traversé l'espace en lançant des cris aigus. Dans le silence revenu, un présage de crépuscule bleuté a commencé à nous envelopper, toi et moi. Quand je me suis assis à tes côtés, j'ai éprouvé une curieuse sensation. C'était comme si des milliers de fils invisibles reliaient délicatement ton corps à mon cœur. Même le plus ténu clignement de tes paupières ou l'esquisse d'un tremblement de tes lèvres bousculait mon cœur.
La Cité aux Murs Incertains de Murakami, c'est chez Belfond. Merci à Marceau Vassy pour la lecture. Pierre Benetti, vous disiez un roman enveloppant. Qu'est-ce que c'est ?
Ben, c'est-à-dire que voilà, j'ai été frappé qu'il y avait beaucoup de neige dans ce roman, des licornes qui meurent
brûle,
d'ailleurs,
qui brûlent
dans la neige, et il fait un effet de neige, c'est-à-dire que il y a une épaisseur, c'est compact, je sais pas comment dire, il y a un sentiment comme ça, alors c'est un peu cliché aussi à propos du Japon, mais moi je me suis senti enveloppé dans une sorte de grande couverture.
Ça peut endormir.
Alors, c'est ça le problème, c'est que là on vient d'entendre un extrait, c'est que je disais qu'il fallait être disponible et disposé. Je pense vraiment que il faut être avoir une capacité intérieure, ça va chercher chez nous avec les ressorts de la grande fiction commerciale, hein, disons c'est quand même le roman dans Paris, si on est dans le métro, on voit des affiches partout, à travers le monde, c'est beaucoup lu. Donc c'est une fiction qui marche fort avec plein de comment dire, c'est très bien fait, c'est très bien ficelé. Et dans le même temps, ça va chercher chez nous des capacités intérieures qu'on ne va pas forcément chercher toujours. Et je me suis demandé, peut-être que c'est moi qui ne suis pas totalement prêt à ça. Et je disais que oui, c'est enveloppant au sens aussi de l'endormissement et de l'engourdissement. Enfin, ce qui évoque pour moi la neige. Il y a ce sentiment d'être en permanence dans des bibliothèques, dans des lieux clos. On est toujours avec ce personnage qui ressemble à bon nombre de personnages de Murakami, hein, légèrement dépressif, légèrement décalé. Voilà, c'est ce sentiment-là. Et parfois, il y a des moments où on est présent aux choses, à ce qui se passe dans le roman, et parfois, et je trouve beaucoup trop de fois, où on est complètement absent parce qu'il y a un trop grand nombre de détails donnés sur le moindre geste du personnage, le moindre mouvement. C'est-à-dire que si le personnage entre dans la pièce, on sait qu'il ouvre la porte, qu'il s'assoit sur la chaise, qu'il saisit un verre d'eau, etc. Enfin, il y a une sorte de trop grande densité, je dirais.
Marie Sorbier.
Oui, ce qu'il faut lui reconnaître à Murakami, c'est qu'il a en effet un talent de construction particulier, narratif, j'entends, dans le sens où c'est un de ceux qui mêle ce monde réel et le monde fictionnel de façon tout à fait fluide. C'est-à-dire que, en tout cas sur la première partie du roman qui se divise en trois, c'est, vous l'avez dit, il y a deux adolescents qui se rencontrent. On pourrait dire dans le monde réel, même si je vais mettre du conditionnel partout, parce qu'en fait, à la fin du roman, on pourrait tout relire autrement. Mais bon, disons dans la vie. Et ils imaginent cette cité au mur incertain. Et ils sont très amoureux. Et en fait, la jeune femme finit par dire au jeune homme, mais si tu veux me rencontrer vraiment, il faut qu'on se retrouve dans cette cité, parce que mon vrai moi est là-bas. Voilà. Et ça, c'est l'intrigue. Il n'y a pas grand-chose de plus. Et comment on y va dans cette cité? Eh bien, il faut le désirer très fort. Donc, chapitre suivant.
C'est vrai qu'on dirait un truc pour adolescents.
Alors,
là,
exactement.
Tel que vous le déclinez.
Moi, c'est ça qui m'a un petit peu, freiné peut-être pas, mais en tout cas, j'ai eu l'impression de lire cette littérature qu'on appelle young adult, c'est-à-dire, les jeunes adultes ou les grands adolescents. D'autant plus que, par rapport à Kafka sur le rivage que vous évoquiez, Pierre, il y a pas du tout d'érotisme dans cet opus-là.
Oui, alors que Kafka, c'était sulfureux. C'est un mot un peu galvaudé, pardon.
Oui, quand même,
il y avait une puissance du désir. Quoi.
Et là, c'est très surprenant parce que le désir est même annihilé. C'est-à-dire que les deux
c'est une passion chaste,
moments
c'est...
Voilà, où on pourrait avoir du désir, donc cette passion adolescente qui n'est pas consommée parce que la jeune fille n'est pas prête et donc il ne se passe rien, ils s'embrassent vraiment pudiquement sur les lèvres et voilà, c'est tout ce qui se passe dans cette histoire-là. Et après, plus tard, quand on retrouve le narrateur qui a peut-être, je ne sais pas, 45 ou 50 ans, qui vit dans une autre ville, dans une bibliothèque, la cité derrière lui, enfin on est vraiment dans une autre vie, il rencontre à nouveau une femme et elle lui dit qu'elle n'a pas de désir pour les hommes, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas pratiquer l'acte sexuel, même si elle veut bien être avec lui. Donc le désir est toujours complètement frustré, en tout cas il n'est pas assouvi, et je trouve que c'est assez caractéristique de ce livre, c'est-à-dire que la critique principale que je lui ferais, c'est que rien n'est incarné. C'est un peu ce que vous parliez dans ce côté enveloppant, c'est-à-dire que tout flotte, les personnages flottent, la neige tombe, les licornes courent et puis meurent.
C'est des états de conscience qu'on a pu avoir dans la vie. Hein.
Exactement.
Ça, c'est, assez,
c'est comme
réaliste.
Un état de conscience modifié, mais qui durerait sur 600 pages. Et en effet, vous parliez de disponibilité, je pense que c'est très vrai. Il faut être dans un état particulier pour lire ce livre. Moi, ça m'a manqué quand même un petit peu de substance, j'allais dire d'action, mais là, le mot est trop grand vu ce qui se passe dans ce livre. Il ne faut pas parler d'action. Mais en tout cas, peut-être d'un suspense ou peut-être de quelque chose à aller découvrir. Parce qu'en fait, cette cité, moi, en tout cas, au bout d'un moment, je m'en fous un peu. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'interrogation ni de désir de savoir ce qui s'y passe, comment on en sort. Enfin, tous les ressorts de, disons, de l'univers fantastique n'y sont pas. Donc je me suis demandé finalement à quoi elle servait. Je suis un peu sortie de cet univers fantastique-là.
Pierre Benetti ?
Mais il y a quand même un enjeu sur la genèse et la construction de ce livre, puisque la nouvelle qui est à l'origine de ce roman est parue en revue. Mais j'aimerais bien la voir parce que j'ai l'impression qu'elle correspond à la première partie, plus ou moins, qui est complètement inégale par rapport à la deuxième qui va être bien plus longue, mais la première partie elle va faire, on va dire, 160 pages. Et c'est ça la cité au mur incertain. Et moi, enfin, une fois que la première partie était terminée, j'étais, j'étais repu. Enfin, j'avais déjà beaucoup eu de sensations. Et je trouve que la deuxième partie réancre le narrateur dans une réalité la plus prosaïque, c'est-à-dire qu'il travaille, bon, comme par hasard, il travaille dans une entreprise qui vend des livres, il est cadre commercial, et comme beaucoup de personnages de Murakami, il rompt les amarres et il va partir dans le nord du Japon, et là, il va aller travailler dans une bibliothèque dans un village perdu. Mais disons que là, j'ai eu énormément de mal à me rattacher au livre dans cette deuxième partie, et c'est la troisième qui, elle, de forme aussi complètement, disons, inégale par rapport aux autres, la troisième va retisser tous les fils entre la première et la deuxième. Donc, faut vraiment tenir, faut tenir la longueur pour voir le réel talent. Il a un talent fou de constructeur de narration. Voilà, je suis un peu étonné du fait que, par exemple, cette cité au mur incertain, au bout d'un moment, c'est simplement un paysage. C'est-à-dire que pour y entrer, après il y a des inventions extraordinaires, c'est-à-dire que pour y entrer, il faut laisser son ombre à l'entrée, ce qui est une invention absolument. C'est un peu une réécriture de Chamisso, enfin du romantisme allemand. Hein, comme ça, il y a aussi un côté réécriture des fictions de rêve avec. Enfin, moi j'ai pensé à Ismaël Kadaré, le palais des rêves, puisque le travail de ce narrateur va être de lire des vieux rêves. C'est une bibliothèque des vieux rêves où il se met à travailler. Et j'ai été déçu parce que finalement, ces vieux rêves, on n'y accède jamais. Enfin, ça joue aussi sur notre attente, hein. Mais on ne les lit pas, on ne les sent pas. Il y a les rêves du narrateur lui-même. Mais voilà, tout est un peu, je sais pas comment dire, lancé, abandonné. Et j'ai l'impression que c'est lié à la jeunesse du livre, puisque c'est. On a beaucoup de textes de confinement. C'est un livre qui est issu du confinement au Japon de Murakami. Il faut savoir quand même que le Japon a connu un type de confinement différent de celui de l'Europe occidentale. Hein. C'est-à-dire que c'est une île, évidemment, mais c'est un pays qui est resté enfermé bien plus longtemps que nous à l'extérieur. Et donc, j'ai eu le sentiment que Murakami allait vers la romance jeune adulte, quoi, ou le sitcom. Je sais pas comment dire. Il y a des dialogues un peu étonnant comme ça, et dans le même temps se recroqueville est complètement reclus sur son propre univers, quoi.
Marie. Parce que finalement, la seule partie un peu plus philosophique, Murakami, il aime bien habituellement convoquer les philosophes, et notamment des philosophes occidentaux d'ailleurs, mais là, finalement, la seule partie qui dépasse le poétique pour aller, disons, dans la pensée, sans parler de philosophie, c'est vraiment cette histoire d'ombre dont parlait Pierre. C'est-à-dire que, donc, à l'entrée, hein, pour rentrer dans cette cité, il faut se séparer de son ombre, on la coupe, c'est très physique, quoi, l'ombre se détache, et elle est stockée dans un endroit avec un gardien un peu Harry Potter, vous voyez, c'est un peu Hagrid qui garde les ombres, quoi. Bon, voilà, il y a un gardien, il garde ses ombres, et on apprend au fur et à mesure que en fait, elles vont pas vivre très longtemps sans leur personnage principal, les ombres. Donc, si on les abandonne, elles vont finir par mourir. Et ce qui est très étonnant dans ce livre, je trouve, c'est que et les fantômes et les ombres, c'est-à-dire des personnages qui normalement n'ont pas consistance, sont finalement ceux qui, dans ce roman, sont les plus bavards, les plus marrants.
Finalement, c'est ça le plus intéressant.
Les plus intéressants. Oui. Et donc. C'est là où je me dis, est-ce qu'à la fin, finalement, il ne faut pas relire le livre à l'envers et que le monde qu'on nous a présenté comme réel est celui qui ne l'est pas, et finalement cette cité avec ses fantômes et ses ombres est la plus réelle des deux. J'en sais rien, ça pourrait être une lecture en tout cas, mais j'ai eu l'impression qu'il avait beaucoup plus d'affection, en tout cas, pour ces personnages d'ombre et de fantômes. Il y a un fantôme génial, je peux le décrire en deux mots. Quand le personnage principal arrive dans cette bibliothèque dans le nord du Japon, le directeur de la bibliothèque, il rencontre donc son prédécesseur qui lui
parle dans la vraie vie.
Dans la vraie vie, tout à fait.
Pour essayer de comprendre.
C'est là où il y a de la neige, on est vraiment au nord du Japon, dans cette petite bibliothèque où il n'y a pas grand monde. On est un peu très loin de tout. Bon. Et ce directeur de bibliothèque est un peu fantasque, il a un béret bleu, ce qui ne se fait pas du tout au Japon, donc tout le monde parle de son béret bleu, et il est habillé en jupe. Alors vraiment double fantaisie, et c'est un vieux monsieur. Bon. Il le rencontre plusieurs fois, c'est ce monsieur qui lui transmet les clés, comment ça marche. La bibliothèque, tout ça est très concret, et en fait on finit par s'apercevoir que ce personnage est mort il y a plusieurs années déjà, et que donc notre personnage principal parle à un fantôme qui est vu d'ailleurs pas que par lui, par une employée de la bibliothèque, enfin. Mais ce qui est très étonnant, c'est que la description de ce fantôme est presque beaucoup plus précise. En tout cas, moi, dans la tête, je le vois beaucoup plus que ce personnage principal, qui est finalement un peu terne.
Oui, mais finalement, pourquoi pas ? C'est-à-dire que c'est ça où Murakami est le plus fort. C'est qu'il arrive à faire exister un autre monde, sans faire du fantastique, mais dans notre monde. Enfin, c'est très très particulier. C'est un glissement très, c'est un glissement merveilleux. C'est un glissement très léger où soudain les personnages, disons, de fantômes, de licornes ou je ne sais quoi, vont être les plus ordinaires et les plus sensibles. Et à l'inverse, c'est vrai que le monde prosaïque, lui, se disparaît. Alors finalement, franchement, on va pas. C'est de la bonne littérature.
Bien sûr.
Je pense que c'est une littérature de grande qualité. Et c'est même métaphysique à un point. Disons, très très étonnant pour un livre très commercial grand public voilà. Quoi. Ouais.
C'était donc La Cité aux Murs Incertains de Haruki Murakami, ça sort chez Belfond et c'est traduit du japonais par Hélène Morita.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Je le disais en ouverture de cette émission, le roman dont nous allons parler maintenant nous arrive 55 ans après sa première parution aux États-Unis. Vie et mort de Susan Blind en 1969 avait reçu des critiques peu amènes. Une semaine après sa parution, son autrice Susan Taubes se suicidait et on allait oublier et le texte et celle qu'il avait écrit avant sa réédition en 2020 et la prise de conscience de sa modernité, de son importance notamment pour l'histoire des femmes. Car cette Sophie Blind du titre est très proche de Susan Taubes. Née en Hongrie, petite fille de rabbin, fille de psychanalyste, marquée par la guerre, la Shoah, elle est aussi une femme qui veut vivre sa vie et quitter son mari. Voici désormais la version française, grâce à la traduction de la romancière Yakuta Alika Vazovitch. On commence avec un avis rapide, comme un petit coup d'œil, Marie Sorbier.
Je trouve que là, cette fois-ci, on est devant un objet littéraire, incontestablement. C'est trouble, c'est foutraque. C'est un roman qui cherche en permanence sa forme. Il nous perd souvent en route, c'est pas un roman facile, mais il nous rattrape, notamment, en tout cas moi, il m'a rattrapé par la virtuosité de certaines phrases et par la liberté magnifiquement contagieuse de l'héroïne et de l'autrice.
Pierre Benetti.
Oui, c'est un roman sinueux, qui ondule, qui chatoie, je sais pas comment dire, qui prend des directions, ensuite d'autres, et qui est vraiment à l'image de son héroïne, c'est pas la narratrice, mais c'est, quoique, parfois, on va en parler, il y a des apparitions de sa première personne, qui est à l'image de cette femme qui se cherche, qui cherche un chemin, elle est tout le temps en mouvement, très vivace. Après, ça m'a posé des vraies questions sur comment lire des livres qu'on redécouvre. Mmh. Ça c'est un vrai sujet.
Alors, on va écouter un passage de Vie et mort de Sophie Blind avec cette lecture d'Oriane Delacroix.
Ouvrir les yeux lui coûte un immense effort. Mais ça se passe dans une autre pièce. Puis la voilà qui descend à la hâte une rue bondée, passe devant des boutiques chics, les vitrines de la place Vendôme lui font de l'œil, avec leurs montres pas plus épaisses qu'une pièce de monnaie. Mais elle sait que ça ne va pas, elle sait qu'elle doit ouvrir les yeux, car elle est allongée sur un lit dans une chambre. À plusieurs reprises, elle ferme et ouvre les yeux. À présent, elle est au lit. Elle reconnaît la pièce. La lumière, à cet étage élevé près de l'Hudson River. Mais impossible de les garder ouverts assez longtemps. À chaque clignement, la pièce change. La fenêtre se trouve sur un autre mur, ou bien une masse sombre lui bloque la vue. Voici qu'elle discerne une silhouette masculine. Elle se rappelle la douleur qui l'a ravagée, à laquelle son corps n'était pas prêt. Est-ce son amant ? Il se tient en manteau près du lit. Elle se demande si elle a hurlé telle une sauvage, s'il a entendu ses divagations éperdues et ses jurons sanglants. Si c'est le cas, il fait mine de rien, par bonté ou par indifférence, parce qu'il préfère ne pas croire ce qu'il a entendu ou vu. Belle, digne, c'est ainsi qu'il veut se la rappeler.
Vie et mort de Sophie Blind de Susan Taubes. Marie, vous avez parlé d'un roman qui cherche sa forme.
Oui, c'est ce qui m'a le plus marqué. D'ailleurs, c'est marrant, en écoutant l'extrait lu par Oriane Delacroix, je me suis dit, il y avait beaucoup d'occurrences du mot œil, yeux, voir, enfin tout ce champ lexical de la vue. L'héroïne qui s'appelle Sophie Blind, oui. Blind, ça veut dire aveugle en anglais, j'avais pas fait le lien, mais d'un coup ça m'est apparu très clair. Oui, c'est une construction très audacieuse. Alors, on peut dire foutraque ou on peut dire audacieuse, ça va dépendre un peu de son style de lecture, mais au début, j'étais perdue parce que on est un peu c'est même pas de l'anti-chronologie, c'est-à-dire que la chronologie est explosée, disons. On commence par un divorce, ou une demande de divorce. D'ailleurs, le titre original en anglais était « divorcing », qui veut quand même dire « être en train de divorcer ». La traductrice dit qu'elle n'a pas trouvé de néologisme satisfaisant, donc maintenant ça s'appelle « vie et mort » au pluriel de Sophie Blind. Mais cette scène de départ est très belle sur le divorce, et comment on demande le divorce, et comment il est refusé, etc. Et on rentre directement dans la psyché de son héroïne, qui est pas simple, hein, qui est vraiment en effet tortueuse. On est dans un labyrinthe, ça parle beaucoup, ça peut être même très bavard par moments. Il y a beaucoup de mots qui sortent, on sent que c'est quelqu'un qui a été contraint et qui a envie de se libérer. Donc ça donne des scènes comme ça un peu gargantuesques de mots qui découlent, pourquoi pas. Mais après, très vite, on va entrer dans les méandres du temps, et notamment avec quelque chose que je peux dire assez vite, parce que en fait l'héroïne meurt quasiment tout de suite, mais ce qui va pas du tout empêcher l'héroïne quand même de parler après sa mort, de revenir sur des souvenirs, de parler de ses enfants au futur. Donc en fait il y a une temporalité qui est assez particulière. Je suis pas sûre d'ailleurs d'avoir tout compris, hein. On essaie de suivre le film, mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, si on veut lire ce livre, il faut abandonner l'idée d'une narration classique et rentrer dans cette psyché-là. Après, elle est en effet torturée, mais elle est aussi fantasque, elle est assez drôle, elle est plutôt libre, elle est plutôt marrante, cette femme. Donc c'est pas non plus, quand je dis tortueuse, on n'est pas que dans le noir, hein. Elle a des passages, elle a plein d'amants, elle est très libre, donc il y a quand même aussi des passages un peu haut en couleur qui font qu'on a quand même très envie, enfin moi j'avais très envie de l'aimer, cette femme-là. Je la trouve incroyablement libre. Par exemple, elle a tout un pan sur les voyages qui me touche beaucoup, mais c'est quand même quelqu'un qui voyage énormément. Elle parle de l'avion, du bateau, de tous ces moyens de transport qui peuvent l'emmener loin. Alors loin de quoi? Loin de son mari, loin de sa ville de naissance, loin d'elle-même aussi, parce que voyager, ça permet d'aller ailleurs, ça permet de retrouver des amants, il y a des hommes qui l'aiment dans toutes les villes. Enfin, toute cette liberté magnifique et du mouvement, du voyage et de cette psyché débordante, moi, ça m'a beaucoup plu. Après, voilà, il faut accepter le fait d'être parfois totalement perdu. Il y a même un moment, je pense, au milieu du livre où je ne savais plus où j'étais, qui parlait. Parce qu'en effet, parfois c'est je, parfois c'est elle, parfois c'est un autre nom. Puis elle prend son nom de naissance, qui n'est donc plus Sophie Blind, mais Sophie Lanzmann, je crois. Enfin voilà, donc tout ça est très confus, mais joyeux. Et ce qui donne à la fin, quand on accepte d'aller jusqu'au bout, quand même, un portrait que je définirais comme cubiste de l'héroïne. C'est-à-dire que c'est pas un portrait harmonieux, on voit pas des traits, on voit pas un visage qui se déploie comme sur la couverture du livre, mais plutôt des facettes qu'elle a essayé de combiner dans un tableau qui serait pas beau à regarder, mais fascinant, parce qu'on on voit toutes les facettes d'une personnalité en même temps.
Pierre Benetti, vous posiez la question du fait de lire de relire ce roman qui a été écrit en 1969.
Moi je me suis vraiment demandé, premièrement, comment il a été lu sur le moment. Comment il va être lu aujourd'hui, on va voir. Mais comment il a été lu, est-ce qu'il a marqué ses lecteurs ou ses lectrices en particulier, et les écrivaines contemporaines, ça on le sait pas trop. Ça, peut-être que ça manque dans l'édition un peu. Il y a une très bonne préface de Yakuta Alikavazovic, qui par ailleurs fait un travail de traduction exceptionnel pour rendre compte de la vivacité du style, du mouvement. Enfin, c'est très très fort en français. Mais moi j'aurais bien aimé avoir quelques éléments pour comprendre ça, parce que quand même la redécouverte d'un texte, évidemment dans la période post-MeToo, c'est pas anodin, ça a été redécouvert, donc réédité aux États-Unis en 2020. C'est pour ça que ça nous arrive 5 ans après en français. Cette redécouverte crée forcément un effet de décalage. C'est-à-dire que on n'a pas les mêmes codes que Sophie Blind ou que Susan Tobes. Cette femme vivrait sûrement autrement tout ce qu'elle raconte. C'est-à-dire que quand même, il y a des... Moi, je me suis senti, il y a un aspect documentaire quand même sur les années 60 aux États-Unis, la société de consommation, le rapport entre hommes et femmes, les amants, enfin les scènes de drague, des hommes sur elle, même si elle en joue, c'est quand même très très marqué. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un film années 60, donc ça, on peut pas y louper. Et puis une sorte de ces matinées d'un féminisme intellectuel, bourgeois, urbain, dont on sait aujourd'hui quand même les problèmes que ça pose vis-à-vis des questions de classe, de race.
Et d'une force dose de psychanalyse aussi.
Et voilà, il y a la psychanalyse qui est vraiment puissante.
Ouais. Voilà.
Très puissante tout au long du livre. Voilà, je me suis demandé, attention aussi aux effets un peu d'annonce du genre, on redécouvre un livre qui a marqué toute une génération. Je suis pas si sûr, parce que pourquoi il a été oublié, ce livre? Peut-être qu'il était un peu difficile à absorber pour sa propre époque. Et je pense qu'en fait, stylistiquement, il met une exigence, ce livre, qui dépasse l'enjeu émancipation féminine, qui est évidemment un enjeu du livre, social, politique. Mais je pense que la construction littéraire que ce livre propose à mon sens, est un peu décalé vis-à-vis de ce qu'on veut, on voudrait lui faire dire dans une époque post-MeToo. Donc, je pense que ça se réduit pas à ça et qu'il faut être un peu prêt à se dire, OK, je suis en 2025, je lis un livre qui n'a pas été lu globalement pendant 50 ans, et qui là, peut-être, va être encore plus lu, mais c'est assez intéressant en termes de temporalité. J'avais eu le même sentiment quand on avait pu relire le livre de Janet Malcolm sur Sylvia Plath. Mmh. Et c'était vraiment
magnifique,
c'est aussi à une autre c'est un livre qui date des années 90 et qui se rapporte à un temps précédent, mais pareil, voilà, on est quand même dans un moment où l'arrivée de beaucoup de livres sur des destins de femmes du passé nous interroge en tant que lecteur quoi, et lectrice.
Marie Sorbier.
Il y a une autre thématique majeure dans ce livre qui moi m'a beaucoup intéressée, c'est à la fois l'exil, puisque donc elle est née à Budapest, elle part aux États-Unis, donc qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on devient, comment on se construit, est-ce qu'elle se sent américaine ou hongroise, tout ça revient beaucoup parce qu'elle revient évidemment voir sa famille, etc. Mais l'autre thème que je trouve particulièrement bien traité, c'est la judaïté. Tout ça se passe dans des familles juives pratiquantes, elle est petite fille de rabbin, je crois, oui. Son mari lui-même est très pratiquant, donc on est entouré de ces rituels juifs qui sont à la fois décrits comme complètement sclérosants, enfin elle est enfermée dans ces rituels qui sont très nombreux dans les fêtes juives, et en même temps elle dit que finalement c'est par ces rituels qu'on crée famille, qu'on fait corps face à une société qui est quand même très hostile vis-à-vis d'eux. Ce double mouvement qu'elle décrit avec lucidité, j'ai trouvé ça très fort. Les fêtes de famille, les rituels, alors c'est souvent très drôle hein, parce qu'elle part dans des espèces d'extrêmes.
Il y a un côté comédie...
Comédie
sociale, familiale.
Complètement. On les voit, ces scènes. Moi, il y a des scènes, j'avais l'impression que c'était déjà des scènes de films. Je les voyais. La scène de Pessard chez la grand-mère, elle est quand même costaud. Mmh. Et en même temps, en dénonçant tout ça, elle en dit quelque chose comme quoi la religion fait famille, enfin fait corps. Et ça, j'ai trouvé ça quand même très intéressant de l'écrire comme ça.
Pour revenir sur le titre, l'invention de Yakuta Alikavazovic est quand même très intéressante parce que tout est vu tout au long du livre depuis la mort du personnage. Alors, il faudrait retrouver dans la bibliothèque les romans construits comme ça, mais ça marche très très fort. C'est-à-dire qu'on a un sentiment de saisir la temporalité d'une vie, disons des années, on va dire 30 aux années 60. Ce qui correspond plus ou moins à la vie de Suzanne Taubes, hein, qui s'est suicidée une semaine apparemment
après la parution.
Après un article dans le New York Times.
On ne sait pas si c'est lié.
Oui, j'espère que la critique ne marche pas.
Ne vous suicidez pas.
Voilà, mais disons, non, je saisir une temporalité depuis la disparition de ce personnage, franchement, j'avais rarement lu un tour de force. Il y a un côté tour de force et ça marche. C'est-à-dire que c'est assez... en effet, il n'y a pas une fragmentation d'une vie. Mais il y a toutes les vies que cette femme a tenté de vivre pleinement avec un amant, quatre amants, un mari,
trois enfants.
Mmh. Et c'est assez joyeux. Tu vous l'avais dit tout à l'heure. Il y a une très très grande joie dans ce livre.
Merci beaucoup. C'était Vie et mort de Sophie Blind de Suzanne Taubes. C'est aux éditions Rivage et on l'a dit, traduit de l'anglais américain par Yakuta Alikavazovic. Évidemment, toutes les références et les infos sont sur la page des Midi de Culture, sur le site de France Culture. Pierre Bianetti, Marie Sorbier.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marie Sorbier. On se retrouve tout à l'heure pour.
Non, pas très longtemps.
Voilà. Pour le point culture.